L'émission L'heure juste qui se poursuit et on continue la discussion sur ce phénomène qu'on dira rarissime là, de cette éclipse solaire qui va se produire le 8 avril prochain. C'est vraiment, en tout cas, j'invite les gens, j'invite les parents, parce qu'on vient de l'entendre de la bouche du directeur général de la commission scolaire, l'école sera annulée, mais j'invite moi personnellement les parents peut-être à aller chercher des informations, aller sur le web, aller tenter de faire vivre quelque chose d'intéressant à leurs enfants cette journée-là, s'ils sont en mesure de le faire. Mais on poursuit cette discussion-là maintenant avec Simon Bélanger, il est coordonnateur en activité scientifique du côté du Planétarium de Montréal, donc un expert sur la question. On va pouvoir jaser puis essayer d'avoir du fun pour bien comprendre l'ampleur du phénomène et bien l'apprécier. Monsieur Bélanger, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, merci premièrement d'avoir accepté notre invitation parce que on en entend beaucoup parler, tout le monde en entend parler. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'on entend par éclipse solaire? C'est quoi ce phénomène-là?
Alors, c'est quand que la Lune, en fait, va venir bloquer totalement le Soleil, donc ou en partie. On va parler d'éclipse partielle du Soleil lorsque la Lune bloque une partie du Soleil et une éclipse totale du Soleil lorsque la Lune, effectivement, va bloquer complètement le Soleil. À ce moment-là, on n'aura plus de lumière du Soleil. On va avoir, en fait, une luminosité comme un crépuscule, en fait, autour de nous. Et cette totalité-là, elle est rare parce que, dans le fond, elle ne dure que quelques minutes. Et dépendamment où on se trouve, on va avoir de 1 à 3-4 minutes là, dans le cas du 8 avril qui nous intéresse.
Où est-ce que ça va être l'idéal au Québec, là, cette bande-là parfaite pour l'observer? Quels endroits ce seront les plus propices pour voir ce phénomène-là au Québec?
Au Québec, là, ça va être la rive sud, mais même le sud, sud-est du Québec, qui va être dans la totalité. Donc, Montréal est un peu coupé en deux. Vraiment, ça commence là, la totalité à Montréal. Fait que Montréal-Nord ou Pointe-de-l'Île, c'est sont même pas dans la totalité. Laval n'est pas dans la totalité. Mais Longueuil, Beauharnois, Saint-Jean-sur-Richelieu, on est dans la totalité. Et le maximum, en fait, de totalité, ça va être autour de Quaticook, Sherbrooke et Lac Mégantic.
C'est dangereux. On dit pour les yeux, on invite les gens à porter des lunettes. Je sais que j'ai des collègues qui sont plus âgés que moi qui me disaient quand ils étaient plus jeunes, ils en ont vu des partiels, j'imagine, mais qui avaient fait des boîtes en carton. Il y avait moyen de faire ça quand même avec des moyens du bord. Ceux qui ne possèdent pas de lunettes, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien... Parce que je le disais, puis on va en reparler, mais on l'entendait il y a quelques minutes sur nos ondes. Chez nous, l'école est annulée comme dans bien des endroits. Moi, j'aimerais ça que les gens puissent quand même en profiter au maximum à la maison. Donc, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut se construire ou se procurer? Puis comment bien profiter là, quand on est même pas jeune, mais de tous les âges, de ce phénomène-là?
Il y a plusieurs façons, en fait, d'observer. Puis, juste pour commencer, c'est pas plus dangereux, en fait, le soleil pendant une éclipse que juste normalement.
T'sais. C'est notre tolérance à le regarder, on peut le plus longtemps, d'abord.
Oui, bien, au début, dans les premières phases de l'éclipse, pas vraiment, parce que l'éclat du soleil va rester. Ça va être encore très, très, très brillant. Même quand la Lune couvre 50% du soleil, le soleil reste encore très brillant, puis on a nos réflexes de détourner notre regard de toute façon. C'est quand que le soleil va être couvert à 80-85% que là, la luminosité commence à baisser un peu. Nos réflexes sont un petit peu moins aiguisés, en fait. Et c'est comparable à quand on regarde le soleil à travers un nuage, ce qui n'est pas une bonne idée, mais dans le sens où...
Ce qu'on a tous déjà fait, là.
On a tous déjà... Ouais, c'est ça. Mais je recommande pas.
Non,
pas
mais...
Que rien de dire, mais faut dédramatiser un peu, OK? C'est pas en regardant un coup d'œil vers le soleil qu'on devient aveugle. Je vous le recommande pas non plus, mais faut quand même aussi nuancer certains propos. Et... hiver, tu sais, je regardais justement à Maniwaki, vers 3h15 à peu près, là, on va sentir vraiment une baisse de luminosité. Puis là, ça va être important, effectivement, soit d'utiliser des lunettes d'éclipse, si vous en avez, puis bon, c'est vraiment le fun à regarder. Sinon, il y a un paquet, tout ce qui est projection. Donc, si on voit le soleil projeté, si on est capable de le projeter par terre sur un carton, là, ça, c'est tout à fait sécuritaire. Et ça peut être aussi simple que de prendre une passoire. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ont une passoire chez eux. On se met dos au soleil, on laisse passer les rayons du soleil à travers les trous de la passoire et sur le sol ou sur un carton, sur un plan peut-être un petit peu plus blanc, peut-être un béton, par exemple, on va voir plein de petits points et on va voir, en fait, que ces petits points-là, ils vont avoir comme un... ça va ressembler à des croissants, en fait. à des petits croissants, mais en fait, c'est le soleil qui est projeté par terre, puis le croissant, bien, c'est parce que la lune couvre une partie du soleil. Et ça, c'est vraiment le fun, parce qu'on peut rassembler les enfants autour, on tient la passoire, et tout le monde regarde, en fait, justement, le phénomène par terre, et non pas directement le soleil.
Je sais, puis on va faire du pouce là-dessus. J'ai vu qu'il y a une lettre d'opinion dans la presse qui est parue, Vivre ensemble l'éclipse totale de soleil, qui a été rédigée là, par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. On dit que finalement, lui, il va être aux premières loges. C'est un événement, vous le dites, ça fait 10 ans. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont très, très excités, mais qui se désolent un peu de la décision, justement, de certaines écoles de ne pas en avoir profité, de ne pas avoir réussi. Tu sais, c'est pas d'hier, on peut prédire celle dans 100 ans. On avait le temps de le voir venir. Tu sais, on aurait pu décaler les cours, faire une journée spéciale. Tu sais, ça, on aurait pu le préparer des années d'avance, mais on a plutôt préféré annuler, laisser les enfants à la maison dans l'espoir que peut-être ça soit plus sécuritaire pour eux. Est-ce que cette décision-là, j'imagine, ça passe mal pour certaines... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le... Parce que, il me semble que c'est une belle occasion à saisir, plutôt que de dire, on a peur, on veut éviter des soucis ou des poursuites, ou bon, je sais pas quel mouche les a piqués à ce moment-là, mais il me semble que ça aurait été une belle occasion à saisir. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est sûr que nous, de notre côté, on aurait aimé ça, en fait, que les écoles restent ouvertes. On a même pris ces mesures-là, en fait, au planétarium. On a distribué des lunettes à toutes les écoles publiques de l'île de Montréal, les primaires, les secondaires. Donc, justement, pour encourager les écoles à rester ouvertes, à faire un événement de cette... à faire des activités, en fait, autour de cet événement-là, puis à créer vraiment, en fait, quelque chose qui montre que l'école, c'est intéressant, que c'est pas... Que la science, que l'apprentissage, ça se passe pas juste entre quatre murs puis un toit. Tu sais, on peut sortir, on peut voir des choses. Faut en profiter. Puis c'est sûr qu'on aurait préféré que les écoles restent ouvertes pour en faire profiter le maximum d'enfants. Parce que je suis sûr qu'il y a des parents qui sont très motivés, qui vont prendre le temps, en fait, de prendre leur enfant puis de leur montrer qu'est-ce qui se passe. Mais peut-être qu'il y a des parents qui n'auront pas l'occasion. C'est pas tous les parents non plus qui ont la chance de pouvoir prendre une journée de off pour pouvoir aller voir les éclipses avec leur enfant. Puis ben, l'école, c'est une belle occasion, en fait, justement, pour réunir les enfants de n'importe quel milieu, en fait, puis élever, justement, c'est cette jeune population, leur faire profiter d'événements qui, autrement, en fait, auraient peut-être la difficulté à voir ou à expérimenter. Donc, c'est pour ça qu'on aurait préféré que les écoles restent ouvertes. Mais sinon, on a continué puis de distribuer nos lunettes en espérant qu'il y ait un maximum de personnes qui aient leurs lunettes pour pouvoir profiter de l'activité.
Moi, je me questionne beaucoup sur l'impact sur la faune, la flore, ou chez les humains aussi, mais tu sais, nos amis, les animaux, les plantes, comment ils vont vivre ce phénomène-là?
C'est vraiment le fun, en fait, parce que, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, la luminosité ambiante, ça va ressembler à un crépuscule. Fait qu'il va avoir la lumière d'un coucher de soleil, en fait, mais ça va être un coucher de soleil à 3h30, et... fait que pour nous, on va vraiment avoir l'impression que le soleil se couche, même les couleurs, en fait, notre perception des couleurs va être modifiée, mais ça veut dire aussi pour les animaux, ils vont avoir l'impression que le soleil se couche, puis ils comprennent peut-être pas non plus la géométrie céleste qui est en train de s'opérer. Donc, ben les coqs vont chanter, les vaches vont peut-être retourner à l'étable, les chiens vont aboyer, là, peut-être le 8 avril, c'est un petit peu tôt, mais dans le fond, remarquez, il commence à faire chaud déjà. Les insectes de soirée vont sortir aussi. Il y aurait des chauves-souris qui seraient en train de sortir aussi. Les grenouilles vont commencer à croître comme si c'était la fin de la journée. Donc, tout ce phénomène de crépuscule, tout ce qu'on entend, en fait, quand le soleil se couche, va commencer à se manifester à 3h30, autour de 3h15, là, je vous dirais, là, dans votre coin. Jusqu'à 3h45 à peu près. Puis c'est la même chose ici au niveau de la flore. Encore là, 8 avril, peut-être pas toute la flore qui est sortie, mais il y a des fleurs, en fait, qui se ferment pendant la nuit, puis il y en a d'autres qui s'ouvrent pendant la nuit. Puis on voit ce phénomène-là s'opérer, en fait, lors d'une éclipse. Même les températures, en fait, on peut avoir grosse baisse de température, là, jusqu'à une dizaine de degrés, en fait, là, qui peut arriver.
Wow!
Donc, tout aussi, ce qui est associé à une chute de température va s'opérer. Fait qu'on a des différentes dépressions atmosphériques, donc on a des vents aussi qui vont commencer à souffler. S'il y avait des petits nuages d'humidité dans l'air, ils vont se vaporiser aussi. Comme on voit, c'est le crépuscule au beau milieu de l'après-midi.
Écoutez, M. Bélanger, Simon Bélanger, je le rappelle, vous êtes coordonnateur des activités scientifiques du côté du Planétarium de Montréal. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était fort intéressant. Puis maintenant, espérons que les gens puissent en profiter à son plein potentiel de ce phénomène rarissime qu'on va pouvoir vivre là, à 100% chez nous au Québec, ou du moins, tout dépendamment des endroits, mais dans la grande majorité, ça va être bien excitant tout ça. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Les nouvelles Cogeco s'en viennent dans un instant au retour. Michel Prévost est notre invité. C'est une entrevue réalisée par Aline Essombe, journaliste à CAGA-FM. Il est président de la Société d'histoire de l'Outaouais. On jase de la détérioration du pont Savoyard à Grand-Remous.